Mines, gaz, rivières ou forêts, les projets d'exploitation des ressources naturelles interpellent des citoyens. Ils s'unissent pour s'opposer au développement des projets, même s'ils ne poursuivent pas tous les mêmes objectifs. Les citoyens revendiquent d'être informés des projets, de pouvoir participer à la prise de décision. Et sur le terrain, cela prend souvent l'allure de bras de fer entre la compagnie et le voisinage. Pour les compagnies, il est dorénavant difficile de faire l'impasse de la balise citoyenne. Il s'agit souvent d'enjeux concrets, comme on l'a vu avec les projets d'exploitation du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. On parle de santé, on parle de pollution, on parle d'environnement à préserver. Faut-il produire plus d'électricité? À quel coût? Impact? Et par-delà, le boisé cernant le village ou la rivière qu'on désire préserver, ce sont des choix de société qui doivent se discuter. Car que voulons-nous laisser à nos enfants? Donc le citoyen a un rôle à jouer dans la saine gestion des ressources naturelles. On va parler aujourd'hui avec la professeure Lucie Sauvé, professeure responsable du groupe de recherche en éducation et formation relative à l'environnement de l'UQAM. Elle est aussi cofondatrice du collectif scientifique sur les questions de gaz de schiste. Bonjour Lucie.
Bonjour.
On en parle aussi avec Joël Nadeau, le co-porte-parole du comité Mine de Rien. C'est un comité de citoyens bénévoles d'information et défense des droits et des intérêts de la population de Wotton et de Sainte-Camille face à l'implantation de mines d'or sur le territoire. Bonjour Monsieur Nadeau.
Oui, bonjour.
Et on en parle avec Serge Fortier, coordonnateur général et porte-parole du regroupement interrégional sur les gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, justement. Ma première question, les Québécois se mobilisent-ils beaucoup autour de leurs ressources naturelles, professeur Sauvé?
Oui, avec en particulier avec la question du gaz de schiste, là, on a vu une mobilisation sans précédent au Québec. Sans précédent, probablement parce qu'il s'agissait d'une intrusion, d'une invasion barbare quand même d'un territoire habité, plus habité que certaines zones nordiques, par exemple, mais aussi parce que, à travers les luttes antérieures, les citoyens avaient appris la mobilisation. Si on pense à cette lutte contre la centrale du Suroît, celle à propos de l'utilisation du mont Orford à des fins de développement immobilier, la mine d'uranium à cette île, Rabaska en fait un ensemble de luttes antérieures, et puis évidemment il faut aussi souligner les porcheries industrielles. Et bien ces luttes antérieures ont quand même permis aux citoyens d'éprouver leur capacité à se rassembler, à travailler ensemble, à colliger l'information, à revendiquer un espace de parole, un espace de démocratie, et ont aussi appris qu'ils peuvent changer les choses. Alors, quand est arrivée l'annonce de l'implantation de l'industrie du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, il y avait quand même déjà un terreau fertile pour la mobilisation. Mais que cette question du gaz de schiste a permis là, de déployer à une échelle du encore jamais vu au Québec.
Monsieur Fortier, qu'est-ce que vous avez appris?
Pardon?
Qu'est-ce que vous avez appris, justement, pour se mobiliser? Avez-vous beaucoup appris?
Ben mon Dieu, j'ai beaucoup appris, oui, certainement, parce que moi, honnêtement, c'est la première fois que je participe à une mobilisation citoyenne de la sorte, et surtout aussi impliquée, parce que c'est allé me piquer au vif par rapport à, la mission que je me suis donnée, moi, professionnellement. Je travaille en environnement aussi, alors j'enseigne aux enfants comment en faire pour respecter la nature, recycler les choses, etc., et apparaît tout bonnement sur le territoire, sans qu'on le sache, un projet immense, très envahissant, qui est déjà sur place d'ailleurs, on parle du gaz de schiste évidemment, et qui va complètement, c'est l'antipode là, du travail que je fais. Alors pour moi, j'ai fortement réagi personnellement, et j'ai à ce moment-là mis toutes mes énergies depuis 18 mois sur la mobilisation citoyenne pour aider à contrer l'envahisseur. Tel que disait Mme Sauvé, on était carrément envahis. C'est une invasion qui s'est produite ici dans la partie la plus habitée du Québec et la partie la plus agricole aussi. C'est que nous, en quelque part, on est inquiet pour l'avenir de l'agriculture, l'avenir de notre économie à tous les niveaux, l'économie touristique aussi. On tombe pas à zéro demain matin si on n'accepte pas le gaz de schiste. Là, on a déjà une économie qui existe et c'est important de la préserver puisque c'est une économie essentielle à l'ensemble des citoyens. Quand on parle d'agriculture, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'était primordial pour ma part, personnellement, de m'impliquer dans ce projet-là, parce que aussi j'ai 5 enfants et qu'est-ce que je veux les laisser en héritage, moi? Et ce que je trouve très dommage, c'est qu'on soit obligé de traiter avec l'industrie. Ça fait 18 mois que les groupes citoyens traitent, non pas avec son propre gouvernement qui est supposé le protéger ou écouter un peu les inquiétudes des citoyens, non. On traite avec l'industrie. C'est à notre gouvernement de nous donner les réponses et il se cache derrière l'industrie depuis le début. Ça, nous autres, c'est très frustrant.
Monsieur Nadeau, et vous, comment on se mobilise et qu'est-ce qu'on apprend de ça?
Probablement que ça prend un élément déclencheur. Dans notre cas, évidemment, on a vu la menace très près, directement sur notre territoire. Donc, c'est sûr que la population a réagi très fort et s'est mobilisée rapidement. Dans notre cas, chez nous, là, sur un petit territoire en Estrie, c'est un projet de mine d'or dont on parle. Nous, on a réalisé à un certain moment là qu'il y avait une compagnie minière qui effectuait de l'exploration sur notre territoire depuis un certain temps déjà, sans qu'on le sache, sans que nos élus non plus soient mis au courant de ça. Donc, quand on a découvert ça, évidemment, les gens se sont posés beaucoup de questions. La première réaction, c'est de dire, bon, ben une éventuelle mine d'or, on est-tu assis sur de l'or, c'est super, on va s'enrichir avec ça. Puis là, on commence à creuser un peu, puis on réalise finalement tous les dessous de cette industrie-là, toutes les conséquences possibles. Donc, après ça, ce qu'on a réalisé, et c'est surtout là qu'a été le gros élément déclencheur, c'est de prendre davantage la loi sur les mines au Québec. La loi sur les mines, je fais une parenthèse ici, là, qui encadre autant le gaz de schiste que toute l'exploration et l'exploitation minière dans la province. Donc, quand on a réalisé notre vulnérabilité à ce niveau-là, quand on a vu que la loi sur les mines, dans son état actuel, même avec les dernières propositions du gouvernement, font en sorte que nos communautés ne sont pas protégées, que l'environnement n'est pas protégé, puis qu'on n'a pas un système de juste redevance au Québec pour la perte de nos ressources non renouvelables, eh bien, évidemment, là, les gens ici se sont mobilisés, non pas pour dire qu'on ne veut pas de mines chez nous, mais bien pour dire que dans les circonstances actuelles, dans la manière de faire présentement, eh bien, on ne va pas tolérer ça sur notre territoire. Donc,
Oui, parce que c'est de plus en plus proche de la population, finalement. Quels sont, professeur Sauvé, les principaux défis et obstacles de cette mobilisation citoyenne?
Il faut bien prendre conscience que le pas dans ma cour, d'accord? On nous accuse, comme citoyens, de s'attarder à l'argument du pas dans ma cour, mais il faut bien se rendre compte que le pas dans ma cour n'est pas un vilain défaut. Ça devient un défaut quand la cour s'arrête à celle du voisin. Mais quand on se rend compte que la cour, finalement, c'est celle aussi du voisin, c'est celle de toute la communauté, c'est celle du village, de la région, c'est celle de tous les territoires occupés du monde, bien là, on se rend compte que le pas dans ma cour, ce sentiment-là, peut être un formidable levier de mobilisation. Alors, au Québec, à propos du gaz de schiste, là, on a vu s'organiser finalement 65 et plus encore 65 comités citoyens sur cette question, s'organiser, se mobiliser. Les obstacles qu'on a rencontrés, c'est d'une part des obstacles structurels. Parce que au gouvernement, aucune des instances normalement chargées de protéger le citoyen ne s'est opposée à ce projet de développement gazier. Au contraire, le ministère du Développement durable, le ministère des Ressources naturelles en ont été les ardents promoteurs. La question n'a pas été étudiée par les responsables de la prise de décision. Et donc, les citoyens se retrouvent d'une part devant des instances gouvernementales qui agissent sous la pression du lobby de l'entreprise, qui prennent des décisions sans bien étudier le dossier et qui considèrent que les premières manifestations de la résistance citoyenne sont de l'ordre de l'émotion, sont de l'ordre de l'ignorance. Donc, on va rassurer la population. Le gouvernement a entrepris une campagne de marketing social auprès de la population du Québec pour informer, pour rassurer cette espèce de bête grogneuse là, qu'est le citoyen, que sont les citoyens. Alors, et en fait, les citoyens doivent réagir à cette entreprise de marketing social, doivent offrir une contre-expertise, déconstruire les arguments qui leur sont servis et doivent revendiquer des espaces de démocratie participative. Alors, les citoyens se retrouvent devant un système législatif, réglementaire, qui verrouille la situation et où les organisations, les instances gouvernementales travaillent en silo avec leurs espaces de juridiction. Par exemple, à la Commission de protection du territoire agricole, on a autorisé tous les permis demandés parce qu'on n'avait pas là la juridiction, en fait la compétence pour les entraver, ces projets-là. Et c'est ainsi dans toutes les organisations, dans toutes les instances gouvernementales, où chacune travaille en silo avec son espace de compétences gouvernementales. Et nulle part, on va retrouver un interlocuteur qui regarde la situation dans son ensemble et qui qui accueille la parole citoyenne comme une parole légitime, crédible.
Le citoyen se trouve très seul finalement devant la compagnie, puis très seul aussi pour se défendre. C'est l'occasion d'apprendre, parce qu'on là, quand on parle de gaz de schiste, il faut apprendre justement tout le côté scientifique. C'est quoi? Qu'est-ce que sont les impacts? Qu'est-ce que sont les risques? Puis il le fait un petit peu tout seul. Monsieur Fortier, j'aurais voulu que vous me parliez de la lettre que vous n'entrerez pas chez nous, parce que là, le citoyen doit aussi apprendre.
Comme disait Mme Lucie Sauvé, nous sommes un peu à la merci d'un système qui n'est plus démocratique, qui est plutôt oligarchique, là. Ou est-ce que c'est un petit groupe qui décide déjà d'avance de ce que nous devons faire, de ce que nous devons dire? Et je vous dirais, les citoyens, nous, on est avec eux, on vit avec eux, c'est à eux qu'on parle et on les rencontre. Et ça va venir justement au sujet de la question que vous avez posée au niveau de la lettre. On les rencontre un par un pour justement qu'ils puissent s'exprimer sur ce dossier-là. Et puis, on se rend compte que les gens, on en rencontre beaucoup qui sont des défaitistes, qui disent « qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Tellement habitués d'être nés par le bout du nez, on n'a comme pas de moyens pour pouvoir se défendre, ou même si on se défend, ça va mener à quoi? On rencontre souvent cette réaction-là de découragement, de défaitiste, là. Bon, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Si on les a élus, il va falloir attendre aux prochaines élections. Nous qui sommes mobilisés, on n'est pas d'accord avec ça et on réagit et on montre aux gens qu'il y a possibilité d'agir si on est nombreux et qu'on la fasse valoir, cette démocratie-là. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, qui est une primeur au Québec, c'est que les citoyens québécois se rendent compte que son vrai pouvoir, c'est lorsqu'il marche main dans la main et qu'il est solidaire d'une décision ou d'une action. Et l'action, vous n'entrerez pas chez nous, l'opération, vous n'entrerez pas chez nous, et justement, une manifestation concrète de ce que ça peut donner lorsque on travaille solidairement. Mais c'est un travail de moine, ça, de faire ça, parce que dans le fond, on a produit un document qui origine d'ailleurs de M. Nadeau, de Saint-Camille, et qu'on a adapté pour la Vallée Saint-Laurent concernant le gaz de schiste, le dossier du gaz de schiste, et qui s'étend maintenant, mon Dieu, à travers toute la vallée, parmi près de 70 comités. Ça progresse de jour en jour. Il y en a de plus en plus de municipalités qui a un comité de citoyens qui se forme pour embarquer dans cette opération. Vous n'entrerez pas chez nous. Et ça consiste simplement à rencontrer tous les citoyens, les propriétaires terriens d'une municipalité et de leur permettre de signer une lettre de refus d'accès, leur permettre de se prononcer par écrit sur leur et de manifester s'il y a lieu leurs inquiétudes vis-à-vis un dossier aussi peu aussi abracadabrant, ça n'a pas de bon sens, et qui ne respecte pas, entre autres, le principe de précaution. Il y a tellement d'inconnus dans ce dossier-là que par principe de précaution, il faut pour l'instant, dire non. On n'est pas contre ou pour le gaz de schiste, mais on se positionne à dire non, pas pour l'instant, parce qu'il nous manque trop de détails sur le plan de la santé publique, sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'impact au niveau social, au niveau des dérangements. Il y a plein de sur le plan aussi économique, est-ce que c'est vraiment rentable? Sur le plan des alternatives, par rapport au réel développement durable, est-ce qu'on veut un développement durable qui va encore nous mettre dans une consommation d'hydrocarbures pour les 50 prochaines années, en nous faisant croire que c'est une transition en attendant d'aller vers les énergies vertes? Pourquoi pas tout de suite passer aux énergies vertes? Il y a des possibilités de le faire, mais l'énergie et les budgets sont mis sur encore des hydrocarbures, des projets d'hydrocarbures pour encore satisfaire le lobby pétrolier ou encore satisfaire les mêmes grosses compagnies ou la même finance, si on veut, alors qu'on sait pertinemment que les énergies vertes seraient beaucoup plus créateurs d'emplois et aideraient beaucoup plus aux économies régionales ou locales que des projets gaziers où est-ce que les intérêts vont sortir en majorité là, du Québec et qui sont hyper subventionnés de toute façon avec nos taxes. Vous savez, ce qu'on se pose comme question, puis à un moment donné, ce serait le fun que ça devienne sur le sujet, là, c'est que dans le temps du premier ministre Jean Lesage, on a nationalisé les énergies. Hein? Il y a eu un mandat qui a été donné par les Québécois pour nationaliser les énergies. Ça, c'est pas un qui est l'hydroélectricité, c'est le gaz puis le pétrole aussi. Et puis, moi, je me souviens pas par la suite que les gouvernements qui ont suivi aient eu un mandat des Québécois de dénationaliser, de tout privatiser comme c'est rendu maintenant. Parce que de plus en plus, toutes nos énergies sont privatisées, s'en vont vers des intérêts privés, et nous, on n'a plus de contrôle sur rien, alors qu'on n'a jamais donné le mandat à nos gouvernements de faire ça.
Monsieur Nadeau, j'ai l'impression que le mouvement citoyen grossit. Là, j'entends qu'il y a 70 comités là contre le gaz de schiste, mais j'ai entendu aussi parler de la coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Il y a beaucoup de coalitions, de comités qui s'arriment les uns avec les autres. Est-ce qu'on est passé vers une autre étape de mobilisation, selon vous?
Possiblement, parce que on fait face à des enjeux qui sont très locaux, évidemment, parce que bon, les projets de gaz de schiste et de mines concernent des communautés en particulier, mais qui relèvent d'une dynamique vraiment là qui est vécue à l'échelle du Québec. Puis il y a plusieurs regroupements locaux qui commencent à s'associer ensemble pour mener des actions communes. Bon, il y a la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine qui regroupe plusieurs petites associations citoyennes locales, d'autres groupements nationaux aussi. Et puis là, on voit aussi des liens qui se tissent, par exemple, justement, entre les mines et les gaz de schiste, parce que, bon, tantôt, je le disais, c'est la même loi sur les mines ou en bout de piste là, qui est le problème. Si je peux faire du pouce un peu là sur l'action, justement, là, qui a été née dans la vallée du Saint-Laurent pour les lettres de refus d'accès durant la phase d'exploration. Je pense que c'est important de mentionner que dans la vallée du Saint-Laurent, sont rendus à plus de 20 000 lettres qui ont été signées. Et il y a une action qui a été lancée à l'échelle nationale, moratoirecitoyen.com, pour donner les outils aux gens, justement, via ce site web-là, le moratoirecitoyen.com, pour savoir qui possède des titres gaziers ou des claims miniers sur leur terrain et comment, justement, faire pour envoyer une lettre de refus d'accès durant la phase d'exploration pour ceux qui souhaitent le faire. Donc, effectivement, on voit des regroupements comme ça là, d'intérêts se former plus à l'échelle provinciale et puis des groupes de pression, évidemment, là, bon, pour déposer des mémoires, faire des sorties médiatiques communes, faire des actions symboliques pour augmenter la pression sur le gouvernement, toujours dans le même objectif d'apporter des correctifs en profondeur à l'actuelle loi sur les mines. Évidemment, je pense que on en arrive à une situation où est-ce que c'est important et urgent. De toute façon, il y a un appétit grandissant de la part de l'industrie gazière et minière à l'échelle internationale, on le voit. Bon, les techniques se sont développées, mais il y a aussi surtout le coût de ces minéraux-là et de ces carburants-là et aussi, finalement, une pénurie annoncée, qu'elle soit réelle ou pas, ça fait en sorte qu'il y a une course présentement assez importante et on en est présentement, nous, victimes, en quelque sorte, parce que le gouvernement s'est senti empressé là-dedans et engagé, finalement, des actions qui font en sorte qu'aujourd'hui, il y ait un peu industries, là. Il s'est engagé auprès de ces industries-là à aller de l'avant avec des demandes qui avaient été faites. Il y a des promesses sur la table que, dans le fond, si le gouvernement ne respecte pas, il risque d'y avoir des poursuites, hein. On l'a vu ailleurs en Europe, et puis la menace a été clairement dite ici aussi. Donc, on en arrive à une situation où, ce que là, vraiment, il faut sortir justement de ce défaitisme-là dont parlait M. Fortier tantôt, qu'on rencontre chez plusieurs personnes, et se dire, ben non, on a encore la possibilité présentement, plus que jamais, c'est extrêmement important de le faire maintenant, de dire non, la situation actuelle n'est pas soutenable, n'est pas possible. Il faut absolument changer les manières de faire. Et évidemment là, qu'on a une voix auprès du gouvernement et puis qu'il faut la prendre, cette possibilité-là.
Est-ce que les comités peuvent s'inspirer aussi de ce qui se passe en Europe ou d'autres luttes, par exemple, du mouvement environnemental ou de gauche ou d'autres pays? Parce que, par exemple, moi, je pense aux OGM en Europe, ça a été très radical et tout de suite. Est-ce qu'il y aurait des leçons à tirer un petit peu, que ce soit de la France ou d'ailleurs?
Ben, nous avons des liens, entre autres, avec la France. On échange d'ailleurs avec la France, qui, eux, ont pris certaines positions là, concernant non à la fracturation hydraulique, etc. Mais vous savez, les lois sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Mais ce qu'on remarque, par exemple, c'est qu'en quelque part, tous les citoyens sont affectés de par l'invasion de cette industrie-là qui procède à peu près toujours de la même façon. C'est qu'il y a un accaparement qui se fait et la méthode, c'est de nous mettre les compagnies négocient ou s'arrangent avec les gouvernements en place pour prendre possession d'un territoire sans que la population le sache. Et là, si un jour ils s'en aperçoivent, ben là, on est devant le fait accompli, là. Alors, je participais justement en France l'été passé à une espèce de colloque sur l'accaparement des terres par les compagnies. Et partout dans les différents pays, c'est toujours la même méthode, c'est de ne pas demander la permission aux peuples qui vivent là, c'est de prendre le territoire et mettre devant le fait accompli les gens qui n'ont pas les moyens financiers ou les moyens techniques ou humains de pouvoir combattre la machine qui s'est installée. Et c'est exactement ça qui se passe ici, là. Autant dans, je veux dire, c'est mondial, là. Comme disait M. Nadeau tantôt, nous, on parle de gaz de schiste. Ça a été probablement l'élément déclencheur parce que là, il y a un bout à tout d'agir comme ça en pleine face des gens. Ils sont venus s'attaquer à la partie la plus peuplée du Québec. Ils sont venus envahir la partie la plus peuplée du Québec. Il fallait s'attendre à ce que ça réagisse, c'est sûr. Mais ça fait partie d'une situation globale qui est mondial.
Oui, ça avait pensé à Occupation Wall Street, Occupant Wall Street. On est les 99%. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait justement? Quel est le rôle des citoyens dans la gestion des ressources naturelles? C'est quoi notre rôle, professeur Sauvé, dans ce...
Mais je pense que pour le moment, on exerce et on doit exercer un rôle de vigile critique, d'accord? Sachant comment se prennent les décisions au niveau de l'État, connaissant les forces de pression qui s'exercent sur le gouvernement et sachant que les instances en place n'étudient pas les dossiers de façon convenable, ben le citoyen, évidemment, se voit placé dans une situation, dans une obligation de porter le fardeau de la preuve et d'exercer une vigile critique sur tout ce qui se passe. Le mouvement citoyen prend de plus en plus d'importance dans un contexte comme celui-là. On se rend compte que tout est lié. Dans la question du gaz de schiste, on a vu que la question du gaz, du pétrole dans l'estuaire, de l'uranium, toutes les questions liées à l'énergie, l'exploitation abusive des rivières pour les barrages hydroélectriques, de l'éolien, etc., tout est lié. La question, c'est lié à la question des mines aussi. Alors, on se rend compte que la lutte est extrêmement lourde. Le fardeau est lourd à porter. Et là, s'ouvre la question du plan Nord. Mm-hmm. Et c'est un peu effarant de voir que toute cette lutte qu'on a menée, par exemple, dans la question du gaz de schiste ou la question minière jusqu'ici en général au Québec, et aussi la question du nucléaire, de voir que toutes ces luttes pourrait finalement de s'essouffler devant l'ampleur de ce qui s'en vient, de la machine infernale qui s'annonce d'un plan Nord absolument pas étudié de façon convenable et abusif. Et là, on se dit, mais on ne tiendra pas le coup. Alors, et comment faire pour que toute ce savoir citoyen, cette intelligence citoyenne qui s'est développée au fil du temps, puisse être reconnue, mise à contribution dans finalement le défi extraordinaire qui s'en vient là au Québec, où se confirment les décisions autour d'une économie extractive et puis un modèle absolument colonialiste. Alors, c'est très bien de voir qu'en ce moment, les différentes coalitions, les différents mouvements, groupements citoyens, pour que le Québec ait meilleure mine, sortons le Québec du nucléaire, et tous ces mouvements, Fondation Rivière, ressentent fortement le besoin de s'unir autour de l'idée de bien commun. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aura une manifestation assez gigantesque le 22 avril prochain. Soyons attentifs à ce qui se passe. Là.
Le jour de la Terre.
Exactement. Il faudra qu'on soit 100 000 et plus dans les rues pour justement regrouper nos forces, réclamer les espaces de démocratie participative et faire en sorte que face à toutes ces agressions finalement de notre territoire, de notre santé, de notre bien commun, agressions même à l'intelligence citoyenne, eh bien qu'on puisse trouver un terrain, un lieu où vivre une démocratie participative pour éviter de traiter à la pièce les différents problèmes qui surgissent. On peut maintenant penser qu'avec toute la mouvance récente autour des questions socio-écologiques, on est maintenant prêt au Québec à entrer dans ce qu'on pourrait peut-être appeler une démocratie écologique. D'abord, revendiquer la participation, mais revendiquer aussi une démocratie qui tienne en compte le lien entre les sociétés et leur territoire, entre nature et culture. Une démocratie qui laisse place dans les instances de décision aux organisations non gouvernementales, aux ONG, dont c'est la mission, finalement, de prendre en charge ces questions socio-écologiques et qui, eux, ne travaillent pas dans des limites de juridiction, mais qui ont une pensée sans frontières, finalement. De laisser, donc, davantage d'espace dans les organismes de décision à la délibération citoyenne, à la présence des ONG, et aussi, je pense, s'en aller vers des innovations en termes de constitution. Par exemple, pourquoi pas une bioconstitution, comme on trouve dans certains pays d'Amérique latine, en Équateur ou en Bolivie, où on reconnaît finalement la nature comme sujet de droit dans l'exercice de cette démocratie écologique, où on accorde des droits à la terre, à la nature, à la terre-mère, mais vu comme un système de vie où nous, les humains, on fait partie des dynamiques et des écosystèmes. Donc oui, pourquoi pas aller vers une bioconstitution qui reconnaît l'importance et le droit du vivant duquel on fait partie. Alors c'est, je pense que la dynamique actuelle nous amène à revendiquer tout ça.
Monsieur Nadeau, vous, de votre côté, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Est-ce qu'il faut réformer la loi des mines? Est-ce que vous voudriez nationaliser peut-être le sous-sol? Ça serait quoi la prochaine étape? Et surtout, comment ne pas s'essouffler?
Présentement, notre priorité, c'est vraiment la question de la loi sur les mines, qui a commencé à être réétudiée à partir d'hier, là, le 13 février, là, qui va continuer à être étudiée. En fait, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes, mais là, on arrive pas mal vers l'étape finale, c'est-à-dire que probablement que la nouvelle mouture de la loi sur les mines va être adoptée d'ici la mi-avril ou quelque part dans ces eaux-là. Donc, on est vraiment sur les derniers milles. Et puis, c'est maintenant, on a une occasion historique, on a une occasion en or de pouvoir corriger des erreurs graves qu'il y avait dans cette loi-là et qui risquent présentement, si on se fie finalement aux propositions des libéraux, d'être répétées telles quelles. Dans un contexte là, qui est tout à fait pas approprié à ça, qui a énormément changé en plus et qui fait en sorte que présentement, si on adopte cette loi-là, on est encore plus vulnérable que jamais à l'appétit et aux intérêts de ces minières et de ces gazières-là. Donc, on va continuer à faire pression, évidemment, de différentes manières auprès du gouvernement pour ces quelques revendications-là, là, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui modifieraient la loi sur les mines de sorte qu'on sente que les communautés et l'environnement soient protégées et qu'il y ait un meilleur système de redevances. Et on va le faire aussi en collaboration là, avec différents autres regroupements locaux, différentes associations à l'échelle nationale. Et puis après ça, ben, on va voir comment ça se déroule. C'est sûr que ici, chez nous, concrètement, sur le terrain, ben là, il y a une minière qui continue à faire de l'exploration et qui a l'intention, là, si les résultats sont intéressants, que ça débouche sur une mine. Donc, si la loi sur les mines est adoptée telle quelle, puis qu'on se retrouve avec une compagnie qui va continuer sur notre terrain, il va falloir changer de stratégie, il va falloir agir autrement, puis je ne sais pas comment est-ce que ça va se dérouler à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que si le gouvernement libéral s'entête avec son idée, ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas très intéressantes pour le Québec. Je pense même que ça peut nuire finalement à l'industrie minière en bout de ligne parce qu'on va se retrouver dans des situations où l'acceptabilité sociale va être si faible à plusieurs endroits qu'il va y avoir des contestations très fortes sur le terrain, là, voire des situations chaotiques là, qui risquent d'émerger au travers de tout ça.
Professeur Sauvé.
Oui, ben écoutez, il faut se rappeler qu'en 2003, en Bolivie, ce sont les citoyens, les marches paysannes autochtones qui ont renversé le gouvernement en place, précisément sur la question du gaz et aussi sur la question de l'eau. Alors oui, j'appuie ce risque que vous évoquez.
Monsieur Fortier, de votre côté, votre prochain pas, puis... qu'est-ce que vous espérez, le prochain pas que vous espérez?
Nous, on ne s'est carrément pas écouté. On a eu toutes sortes de preuves comme quoi on est mis de côté, ne serait-ce que dans la formation du comité pour l'évaluation environnementale stratégique du dossier des gaz de schiste. Aucun représentant du groupe citoyen n'a fait la demande. Pourtant, on n'a pas pu être sur ce comité-là. Et à la place, il y a plutôt... des gens, des gazières sur un comité qui va étudier la question. Alors, on est toujours mis de côté et ça, pour nous, c'est pas très encourageant. Donc, comme disait Mme Sauvé tantôt, on se doit de rester vigilant parce que pour l'instant, pour nous, il n'y a aucun signe qu'il y a une volonté politique auprès de notre gouvernement de changer quoi que ce soit dans la façon de faire. On ne se sent pas écouté. Alors nous, c'est opération, vous n'entrerez pas chez nous de plus belle, avec c'est la priorité des priorités. On se doit de montrer que ça ne fait pas l'affaire des citoyens de la manière que les dossiers sont traités. Alors, il n'y a pas d'acceptabilité sociale au niveau de ce dossier-là en particulier. Mais bon, ça, ça fait partie de l'opposition qu'on amène. Mais nous, dans les comités citoyens, on est là pour informer les citoyens principalement. Le malheur dans ce dossier-là, ou dans la plupart des dossiers, c'est le manque d'informations données aux citoyens. Alors, le meilleur moyen de manipuler un peuple, c'est de le garder dans l'ignorance. Ça a toujours été, et c'est ce que actuellement le gouvernement fait et l'industrie fait. Il nous donne le minimum, juste le beau, puis le mauvais, ben garde... arrangez-vous pour pas le savoir, ou bien non, cherchez-les vous autres même. Alors, on a le mauvais rôle là-dedans parce que les citoyens, on est toujours en train de montrer les mauvais côtés que ça pourrait amener des dossiers comme ça ou une exploitation semblable si on parle du gaz de schiste. Alors que, dans le fond, c'est un des deux côtés de la médaille qui existe aussi et qui pourrait être là si on accepte ça. Donc, nous, notre travail, c'est un travail de sensibilisation, mais c'est un travail aussi de faire prendre conscience à la population qu'on n'est pas obligé d'aller dans le gaz de schiste.
Oui.
D'autres solutions. Alors, on fait aussi un travail d'information sur tout le volet alternative énergétique. Vous savez, la loi des mines, oui, elle se doit d'être modifiée, d'être améliorer pour que les mines, le pétrole et le gaz, si on a à en exploiter, bien, que ça se fasse correctement puis dans le respect des peuples qui y habitent autour. Mais ça demeure que c'est encore d'aller exploiter des hydrocarbures si on parle du pétrole et du gaz. Alors, la loi des mines ne changera pas non plus la politique énergétique du Québec nécessairement. Alors, il faut aussi se pencher de ce côté-là et faire pression pour que le plus vite possible, on passe à d'autres sources d'énergie et qu'on mette des capitaux là-dessus, qu'on mette des subventions, de l'énergie sur ces moyens-là aussi, plutôt que de tout verser vers le lobby pétrolier et gazier.
Oui, dans le développement durable, il faut surtout insister sur le durable, pas sur le développement.
Professeur, sauvez-vous. Exactement, parce que vous savez, actuellement, le prix du gaz est bas parce que les États-Unis se sont lancés à éperdument dans le gaz de schiste. Puis là, ils ont le marché de gaz naturel provenant du gaz de schiste, provenant du shale. Ça maintient le prix du gaz bas. C'est une lame à deux tranchants. Actuellement, ça retarde peut-être l'industrie au Québec de s'installer parce que, bon, ça vaut pas bien la peine d'en produire, là. Mais d'un autre côté, c'est qu'il y a de plus en plus de clients qui s'abonnent au gaz. Ça va créer une demande supérieure, ce qui risque de justifier de faire des puits de gaz de schiste parce qu'il va y avoir une grande demande, là. Alors, ça joue contre nous autres et plus il y a de consommation de gaz, plus il y a des gens qui délaissent, exemple, l'électricité pour le gaz naturel. Bien, moins c'est intéressant pour le Québec parce qu'actuellement, Hydro-Québec perd des revenus importants, c'est-à-dire les Québécois perdent des revenus importants du fait que le gaz naturel n'est pas cher sur le marché. Parce que c'est tout interrelié, ces énergies-là. Hein. Alors que nous, notre force, c'est l'hydroélectricité, une énergie qui est durable, une énergie qui est verte. Et ça fait que ça va loin et il faut ne pas perdre de vue le développement des énergies alternatives au plus vite. Nos enfants attendent après nous pour ça et souhaitent bien qu'on fasse des actions de ce côté-là. Et la plupart des citoyens qui sont mobilisés travaillent dans ce sens-là et on cherche à informer notre public aussi, nos concitoyens, à se rendre compte qu'on n'est pas pris à la gorge et que c'est pas une nécessité d'embarquer dans le dossier des gaz de schiste. Alors, ne nous énervons pas avec ça. Prenons le temps qu'il faut. Mettons un holà. C'est pas pour rien qu'on a toujours demandé un moratoire sur dans le dossier des gaz de schiste. Il n'y a pas de presse. Le gaz, il ne sauvera pas. Et puis, prenons le temps d'étudier un plan énergétique convenable au Québec. Puis ça rejoint tout le monde.
Vous vouliez ajouter quelque chose, professeur Sauvé?
Oui, en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucun des principes du développement durable qui est respecté dans cette question du gaz de schiste. Et c'était assez curieux parce que le BAP, le Bureau d'audience publique, qui a en fait mené les audiences en 2010, avait intitulé en fait des audiences publiques sur le développement durable de l'industrie du gaz de schiste. Et c'était quand même un titre qui nous amène justement à voir que c'est absurde de penser qu'on entre là en développement durable. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin de ce gaz-là. On nous avait servi comme argument qu'actuellement au Québec, on importe pour 20 milliards de gaz. Mais en fait, si on développait le gaz ici, la facture du 20 milliards, elle serait quand même payée aux entreprises et en très grande partie aux mêmes entreprises, sauf que plutôt que de le produire ailleurs, ces entreprises-là le produiraient chez nous avec tous les dommages collatéraux qu'on appréhende. Alors, on n'en a pas besoin de ce gaz-là parce que si justement on va vers l'alternative énergétique, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, le développement d'un ensemble de technologies, d'un système, en fait, de technologies alternatives, et en particulier la biométhanisation, c'est-à-dire la production de gaz à partir des déchets organiques, on arrivera à produire au Québec toute cette énergie dont on a besoin sans avoir aucunement besoin d'importer ce gaz qui actuellement nous vient de l'Ouest canadien. Et en fait, non seulement les citoyens ont finalement manifesté leur résistance à ce projet-là, ont montré qu'il n'y avait pas d'acceptabilité, d'acceptation sociale, mais ils ont été capables de construire le pourquoi on n'en a pas besoin. À partir d'un savoir savant, scientifique, mais aussi à partir d'un savoir d'expérience, d'un savoir de sens commun. Ils ont appris à repérer, à cerner tous les risques autour de ce développement-là, les risques pour la santé, pour l'environnement, pour des risques économiques également. Mais de plus en plus aussi, à travers le mouvement citoyen, on commence à être capable d'imaginer autrement, d'imaginer au-delà de ce qu'on ne veut pas, mais que souhaite-t-on, que veut-on comme peuple québécois? Et effectivement, c'est toute la politique énergétique du Québec qu'il faut revoir, c'est toute la politique d'exploitation des ressources naturelles qu'il faut revoir. Donc, je pense que cette crise autour du gaz de schiste
est une bonne chose.
Finalement, ça peut pousser à beaucoup d'innovations éco-sociales. On a tout ce qu'il faut ici au Québec pour être des leaders de l'alternative. On est un peuple créatif. On a le tremplin extraordinaire de notre hydroélectricité, comme disait Serge tout à l'heure. Les éléments de technologie alternative existent. Il ne manque que la volonté politique de rassembler toutes ces forces, toutes ces possibilités-là pour faire que le Québec devienne un leader d'une autre énergie, d'une autre économie. Si nous, on ne le fait pas, dans ce pays encore heureusement non dévasté, mais qui le fera?
Donc, on va attendre le 22, on va voir le jour de la Terre, où on en sera dans 2 mois à propos de ces questions-là. Merci beaucoup à tous les trois, merci.
Bienvenue, merci à vous.
Merci.